quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, qui a mobilisé et la diplomatie vaticane et nos frères et sœurs des pays musulmans, la déclaration de Benoît XVI ou le discours de Benoît XVI à Ratisbonne, à Regensburg, ce que ça implique, ce qu'il a voulu dire vraiment, et on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion pour voir quelles sont les conséquences ou peut-être quel est le prophétisme de Benoît XVI à travers ce discours. Ce qu'on peut dire, il y a eu beaucoup de réactions du côté musulman. Benoît XVI a convoqué, il s'est expliqué à plusieurs reprises sur ce qu'il a voulu dire et ne pas dire. Il n'a pas demandé pardon, puisqu'il n'avait pas demandé pardon, puisqu'il a dit ce qu'il avait à dire, mais il a regretté que ce qu'il avait dit ait été mal entendu, mal compris par une partie de la population musulmane. Ça a été monté en épingle et instrumentalisé certainement aussi dans certains régimes politiques islamistes. Mais ce qui est étonnant surtout, c'est que l'Occident n'ait pas réagi à ce qu'a dit Benoît XVI. Parce que la grande baffe, la grande claque du discours de Benoît XVI, c'est pas du tout les musulmans qui l'ont prise, c'est nous les occidentaux. La grande partie de son intervention concernait la tragédie d'un Occident qui a abandonné la raison en l'excluant complètement de la question théologique. Après les salutations d'usage et les bons souvenirs du professeur de théologie Joseph Ratzinger dans son université chérie de Ratisbonne, il dit « Et je me souviens du temps d'avant où nous n'avions pas même de sténo pour prendre des notes, on était là sans secrétaire, pauvre professeur, sans rien du tout. Et parmi le collège professoral, il y en avait un qui a suscité tout d'un coup une réaction. Réaction incroyable, puisqu'il a dit « C'est quand même... » Étonnant de voir que dans notre université de Ratisbonne, de Regensburg, il y a deux facultés, puisqu'il y a deux facultés de théologie, une protestante, une catholique, deux facultés qui s'occupent de quelque chose qui n'existe pas, Dieu. D'un coup, il y a une réaction parmi les professeurs en disant « Mais tiens, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a à l'université de Ratisbonne deux facultés qui s'occupent de quelque chose qui n'existe pas, Dieu ?» Il dit, voyez-vous, c'était quand même assez tragique et symptomatique d'une mentalité qui voulait exclure complètement du domaine de la science, de la wissenschaftlich, de l'approche scientifique des questions du monde, la question de Dieu. Elle est complètement annexe, elle a été reléguée ou dans l'émotionnel ou dans le subjectif, mais finalement, elle ne relève plus du tout d'une approche de la raison et de la science. L'attaque la plus sévère, la plus pertinente, et la plus juste de Benoît XVI à Ratisbonne a été cette attaque contre l'Occident qui avait exclu complètement du domaine d'une approche de la raison la question de Dieu. Ça, je crois qu'il faut bien le savoir. Et finalement, on est resté comme des mollassons devant cette baffe qu'il nous envoyait, baffe intellectuelle, baffe tout à fait salutaire. Hein. On s'est figé ou cristallisé sur les réactions épidermiques ou émotionnelles d'une partie du monde musulman, relayé par un certain nombre de mollassons occidentaux qui disaient « mais le pauvre, il aurait mieux fait de se taire », sans se poser la vraie question de ce qui était mis en cause ou ce qui était mis en lumière à travers l'intervention de Benoît XVI. Il y a une analyse assez intéressante qui a été faite par un journaliste en France qui recitait cette phrase que Benoît XVI avait dite le 24 avril 2005 à la messe inaugurale de son pontificat. « Priez pour moi afin que je ne me dérobe pas par peur devant les loups. » Priez pour moi. L'élément de départ dont s'est servi Benoît XVI, c'était ce texte, un dialogue qui a eu lieu au XIVe siècle entre deux savants, un savant, l'empereur byzantin, Manuel II, paléologue, et puis un savant perse qui était une discussion sur les deux religions, le christianisme et l'islam, où Manuel II dit à ce savant perse « Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau et tu y trouveras seulement des choses mauvaises et inhumaines comme son mandat de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. » Cette phrase-là qui est le lieu d'une controverse, d'une discussion entre deux personnes. Et l'autre va répliquer, va intervenir en disant « mais non, voilà ». Donc on est en débat entre ces deux savants de l'époque. C'est jamais en se référant à Jésus-Christ qu'ils pourront justifier la violence. Le Christ a subi la violence, il ne l'a pas faite aux autres. Jamais, 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 jamais un chrétien, même s'il est chrétien, pourra dire « c'est au nom de Jésus-Christ et en suivant l'exemple de Jésus-Christ » que je casse la gueule à mon voisin. Parce que le Christ s'est offert lui-même. Il y a du sang qu'à verser, c'est vrai. Chez Mahomet et chez Jésus, ce n'était pas le même sang. Chez Jésus, c'était le sien, chez Mahomet, c'était celui des autres. Il y a du sang qui coule, quand la vérité est là. Mais il faut savoir quel sang coule. Et chez le Christ, c'était le sien jusqu'au bout. En disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Quand on regarde l'islam, il est vrai que là, on est quand même dans une autre logique.